Chapitre 19. Le lion et le serpent. Dans les deux semaines qui suivirent, Harry eut l'impression de porter dans sa poitrine une sorte de talisman, un secret flamboyant qui l'aidait à supporter les cours d'ombrage et lui permettait même d'afficher un sourire aimable lorsqu'il croisait le regard de ses horribles yeux globuleux. La dée lui résistait sous son nez en faisant précisément ce que le ministère redoutait le plus, et chaque fois qu'il était censé lire la prose de Wilbur, Esquive dure, Harry repensait plutôt aux meilleurs moments de leur séance d'entraînement. Neville avait réussi à désarmer Hermione. Colin Crivet était enfin parvenu à maîtriser le maléfice d'entrave après 3 séances de rudes efforts, et Parvati Patil avait jeté un sortilège de réduction si efficace que la table sur laquelle étaient posés les scrutoscopes s'était trouvée réduite en poussière. Harry avait vite compris qu'il était quasiment impossible de choisir un jour fixe pour leur réunion de la D, en raison des horaires qu'imposait l'entraînement de 3 équipes de Quidditch, et que le mauvais temps venait souvent modifier. Mais cela ne le gênait pas. Bien au contraire, il estimait préférable que la date de leur rendez-vous soit imprévisible. Si quelqu'un les surveillait, il lui serait impossible d'en déduire un emploi du temps régulier. Hermione conçut bientôt une méthode très efficace pour communiquer la date et l'heure de la prochaine réunion à tous les membres de la D en cas de changement imprévu. Il aurait semblé suspect en effet que des élèves de différentes maisons traversent trop souvent la grande salle pour aller se parler. À la fin de leur 4e séance, Hermione donna à chacun un faux galion. Ron sembla très excité lorsqu'il vit le panier et fut convaincu qu'elle distribuait bel et bien des pièces d'or.
« Vous voyez les chiffres sur la tranche de la pièce ?»
dit-elle en tenant l'un des galions entre le pouce et l'index. À la lumière des torches, la pièce d'or scintillait d'un bel éclat jaune vif.
« Sur les vrais galions, il s'agit simplement d'un numéro de série désignant le gobelin qui a frappé la monnaie. Sur ces fausses pièces, en revanche, les chiffres changent et indiquent le jour et l'heure de la prochaine réunion. Si la date est modifiée, la pièce chauffe et vous la sentirez dans votre poche. Nous aurons chacun un faux galion. Lorsque Harry fixera la date de la prochaine séance, il changera les chiffres de son propre galion et comme j'ai soumis toutes les pièces à un sortilège protéiforme, les autres indiqueront automatiquement les mêmes chiffres. »
Un silence total suivit les paroles d'Hermione. Déconcertée, elle regarda les visages levés vers elle.
« Enfin, j'ai pensé que c'était une bonne idée, » dit-elle d'une voix mal assurée. « Même si Ombrage nous demande de vider nos poches, elle ne verra rien de suspect dans un simple galion. Mais si vous ne voulez pas de mon système... »«
Tu arrives à jeter un sortilège protéiforme ?» s'étonna Terry Boot.
« Oui, » répondit Hermione.
« Mais c'est du niveau des aspics, ça »
dit-il d'une voix timide.
« Oh !» dit Hermione en s'efforçant d'avoir l'air modeste. « Oui, c'est possible. »
« Et comment se fait-il que tu sois pas à Serre d'Aigle ?»
demanda-t-il en regardant Hermione avec une expression proche de l'émerveillement.
« Avec un cerveau comme le tien ?»«
Oh, il est vrai que le Choixpeau a sérieusement envisagé de m'y envoyer au moment de ma répartition, » répondit-elle d'un air radieux. « Mais finalement, il s'est décidé pour Gryffondor, alors... Bon, vous êtes d'accord pour utiliser les galions ?»
Il y eut un murmure d'approbation et chacun s'avança pour prendre une pièce dans le panier. Harry lança à Hermione un regard en biais.
« Tu sais ce que ça me rappelle ?»« Non, quoi ?»«
La marque des mange-morts. Il suffit que Voldemort touche l'une d'elles pour que toutes les autres marques deviennent douloureuses. Ils savent alors qu'ils doivent le rejoindre. »«
En fait, oui, » admit Hermione à voix basse. « C'est ce qui m'a donné l'idée. Mais tu auras quand même remarqué que j'ai gravé les chiffres sur des morceaux de métal, pas sur la peau. »«
Oui, je préfère ta méthode, » dit Harry avec un sourire, en glissant son galion dans sa poche.
Le seul ennui avec ces pièces, c'est qu'on risque de les dépenser par inadvertance.
« Aucun danger !» dit Ron, qui contemplait son propre galion d'un air un peu triste. « Je n'ai aucun vrai galion avec lequel je puisse le confondre. »
À l'approche du premier match de la saison, Gryffondor contre Serpentard, les réunions de la D se trouvèrent suspendues, car Angelina insistait pour qu'ils s'entraînent presque chaque jour. Le fait que la Coupe de Quidditch n'ait pas eu lieu depuis si longtemps ne faisait qu'ajouter à la passion et à la fébrilité qui entouraient cette première rencontre. Les Serres d'Aigle et les Poufsouffles s'intéressaient de très près aux résultats du match, car eux-mêmes auraient à affronter chacune des deux équipes au cours de l'année. Et les directeurs des maisons en compétition, tout en s'efforçant de prétendre que seul l'esprit sportif les animait, étaient bien décidés à voir leur camp l'emporter. Harry comprit à quel point le professeur McGonagall tenait à ce qu'ils battent les Serpentards lorsqu'elle s'abstint de leur donner des devoirs dans la semaine qui précéda le match.
« Je crois que vous avez suffisamment à faire pour le moment, » dit-elle d'un air hautain.
Personne n'en crut ses oreilles jusqu'à ce qu'elle tourne son regard vers Harry et Ron, en ajoutant avec gravité
« Je me suis habitué à voir la coupe de Quidditch dans mon bureau, jeunes gens, et il me serait très désagréable de devoir la remettre au professeur Rogue, alors utilisez votre temps libre pour vous entraîner. »
Rogue ne se montrait pas moins partial. Il avait retenu si souvent le terrain de Quidditch pour l'entraînement des Serpentards que les Gryffondors avaient du mal à y jouer eux-mêmes. Il faisait par ailleurs la sourde oreille chaque fois qu'on lui rapportait que des Serpentards tentaient de jeter des mauvais sorts aux joueurs de Gryffondor lorsqu'ils les croisaient dans les couloirs. Lorsque Alicia Spinett s'était retrouvée à l'infirmerie avec des sourcils si longs et si épais qu'ils lui obscurcissaient la vue et lui entraient dans la bouche, Rogue avait affirmé qu'elle avait dû essayer de s'appliquer un sortilège de cheveux drus. Il refusa d'écouter les 14 témoins qui affirmaient avoir vu Miles Bletchley, le gardien de Serpentard, lui lancer un maléfice par derrière alors qu'elle travaillait à la bibliothèque. Harry était optimiste sur les chances de Gryffondor de remporter la victoire. Après tout, jamais encore il n'avait été battu par l'équipe de Malfoy. Il fallait reconnaître que Ron n'était pas au niveau de Dubois, mais il faisait de gros efforts pour améliorer son jeu. Sa plus grande faiblesse, c'était de perdre confiance en lui chaque fois qu'il commettait une erreur. Encaisser un but le mettait dans un tel état de nerfs qu'il risquait fort de recommencer la même faute la fois suivante. D'un autre côté, Harry avait vu Ron bloquer des tirs d'une manière spectaculaire quand il était en forme. Au cours d'une séance mémorable, il s'était suspendu d'une seule main à son balai et avait donné un tel coup de pied dans le souafle que la balle avait survolé le terrain sur toute sa longueur pour finir sa course à travers l'anneau central des buts adverses. Les autres joueurs avaient estimé que ce coup méritait la comparaison avec celui réalisé récemment par Barry Ryan, le gardien de l'équipe d'Irlande, lorsqu'il avait bloqué une attaque de Ladislav Zamoyski, le poursuiveur vedette de l'équipe polonaise. Même Fred avait déclaré que George et lui finiraient par être fiers de Ron. Ils envisageaient même de reconnaître qu'il avait un lien de parenté avec eux, ce qu'ils avaient toujours essayé de nier depuis 4 ans. La seule chose qui inquiétait vraiment Harry, c'était de savoir jusqu'à quel point Ron se laisserait affecter par la tactique des Serpentards pour le déstabiliser. Harry avait supporté leur quolibet pendant plus de 4 ans, aussi accueillait-il par un éclat de rire les réflexions du genre « Hé, petit pote Potter, on m'a dit que Warrington a juré de te faire tomber de ton balai samedi !» Il répondait du tac au tac « Warrington est incapable de tirer juste. Je serais beaucoup plus inquiet s'il visait le joueur à côté de moi. » Ce qui amusait beaucoup Ron et Hermione et effaçait le sourire narquois du visage de Pansy Parkinson. Mais Ron n'avait jamais eu à affronter une campagne inlassable d'insultes, de sarcasmes et d'intimidation. Lorsque des Serpentards, parfois des élèves de 7e année, beaucoup plus forts que lui, murmuraient sur son passage « Tu as réservé ton lit à l'infirmerie, Wesley ?» Il ne riait pas du tout, et son teint se colorait d'une délicate nuance verdâtre. Quand Drago Malfoy imitait Ron laissant tomber le soifle, et il ne se privait pas de le faire chaque fois qu'il le croisait, les oreilles de Ron devenaient rouges vifs, et il tremblait si fort que ses mains auraient lâché tout ce qu'elles tenaient à ce moment-là. Octobre s'éloigna sous la pluie battante et les rugissements du vent, et novembre s'installa avec sa froideur d'acier, ses matins de givre et ses courants d'air glacés qui mordaient les mains et le visage. Le ciel et le plafond de la grande salle avaient pris une teinte gris-perle. Le sommet des montagnes qui entouraient Poudlard s'était couvert de neige et la température dans le château était tombée si bas que nombre d'élèves mettaient leurs gants en peau de dragon pour parcourir les couloirs entre deux classes. Le matin du match, le ciel était clair et froid. Lorsque Harry se réveilla, il se tourna vers le lit de Ron et le vit assis droit et raide, les bras autour des genoux, le regard fixé dans le vide. « Ça va ?» lui demanda Harry. Ron fit un signe de tête affirmatif, mais resta silencieux.
Harry ne put s'empêcher de repenser au jour où Ron s'était accidentellement jeté à lui-même un sort de crash guimace. En cet instant, il avait la même pâleur, le même visage luisant de sueur et la même répugnance à ouvrir la bouche. « Tu as besoin d'un bon petit déjeuner, » dit Harry d'un ton énergique. « Allez, viens !» La grande salle se remplissait rapidement lorsqu'ils arrivèrent. Les conversations étaient plus bruyantes et l'humeur plus exubérante qu'à l'ordinaire. Quand ils passèrent devant la table des Serpentards, le vacarme s'amplifia. Harry leur jeta un coup d'œil et vit qu'en plus des habituelles écharpes et chapeaux verts et argent, chaque élève de Serpentard portait un badge argenté qui avait apparemment la forme d'une couronne. Pour une mystérieuse raison, ils furent nombreux à adresser à Ron des signes de la main en riant aux éclats. Harry essaya de lire ce qui était écrit sur les badges, mais il n'en eut pas le temps, l'important étant d'éloigner Ron de leur table le plus vite possible. Ils reçurent un accueil enthousiaste à la table des Griffons d'or, où tout le monde était vêtu de rouge et d'or, mais, loin d'améliorer l'humeur de Ron, les vivas semblèrent achever de lui saper le moral. Il s'effondra sur le banc le plus proche, comme s'il s'apprêtait à prendre le repas du condamné.
« Je devais être complètement dingue pour vous vouloir faire ça, » dit-il dans un murmure rauque. « Dingue !»«
Ne sois pas idiot, » répliqua Harry d'un ton ferme en lui passant un assortiment de céréales. « Tu te débrouilleras à merveille, c'est normal d'avoir le trac. »«
Je suis lamentable, » coassa Ron. « Je suis nul. Même si ma vie en dépendait, je serais incapable de jouer convenablement. Mais où avais-je la tête ?»«
Ressaisis-toi, » dit Harry d'un air sérieux. « Pense un peu à la façon dont tu as renvoyé le soif l'autre jour. Même Fred et George ont dit que tu avais été brillant. »
Ron tourna vers Harry un visage torturé.
C'était un hasard,
murmura-t-il d'un air misérable.
Je l'ai pas fait exprès, j'ai glissé de mon balai à un moment où tout le monde regardait ailleurs, et quand j'ai essayé de remonter dessus, j'ai donné un coup de pied dans le soif, sans le vouloir.
Tu sais, répondit Harry en revenant rapidement de sa surprise, il suffit de quelques hasards de ce genre pour être sûr de gagner, non? Assise, face à eux, Hermione et Ginny portaient des écharpes, des gants et des cocardes rouges et or.
Comment tu te sens ?
Demanda Ginny à Ron qui regardait le fond de son bol vide comme s'il envisageait sérieusement de se noyer dans le lait qui y restait.
Il a simplement le trac, dit Harry. C'est bon signe. À mon avis, on ne réussit jamais aussi bien aux examens que quand on a un peu le trac,
fit remarquer Hermione avec conviction.
Bonjour.
Dit derrière eux une voix éthérée et rêveuse. Harry se retourna. Luna Lovegood avait quitté la table des Serres d'Aigle pour venir jusqu'à eux. Plusieurs élèves la regardèrent avec des yeux ronds. D'autres la montraient du doigt en riant ouvertement. Elle avait déniché un chapeau représentant une tête de lion grandeur nature, perché sur son crâne en équilibre précaire.
« Je suis pour Gryffondor, »
dit Luna en montrant inutilement son chapeau.
« Regardez ce qu'il fait. »
Elle leva la main et tapota le chapeau à l'aide de sa baguette magique. La tête de lion ouvrit grand sa gueule et poussa un rugissement très réaliste qui fit sursauter tout le monde.
« Il est bien, non ?»
dit joyeusement Luna.
« J'aurais voulu qu'il dévore un serpent qui aurait symbolisé l'équipe de Serpentard, mais j'ai pas eu le temps de le rajouter. En tout cas, bonne chance, Ronald. »
Et elle s'éloigna d'un pas aérien. À peine s'était-il remis du choc provoqué par le chapeau de Luna, qu'Angelina se précipita vers eux, accompagnée par Cathy et Alicia, qui avaient retrouvé des sourcils normaux grâce à Madame Pomme Fraîche.
« Dès que vous êtes prêts, » dit-elle, « on file sur le terrain, on vérifie les conditions météo et on se change. »«
On arrive tout de suite, » lui assura Harry, « le temps que Ron mange quelque chose. » Mais il apparut très vite que Ron était incapable d'avaler quoi que ce soit d'autre, et Harry estima préférable de l'emmener sans attendre dans les vestiaires. Hermione se leva en même temps qu'eux et attira Harry un peu à l'écart.
« Il ne faut pas que Ron voie ce qui est écrit sur les badges des Serpentards, »
chuchota-t-elle précipitamment.
Harry lui jeta un regard interrogateur, mais elle hocha la tête comme pour le prévenir de quelque chose. Ron s'avançait vers eux, l'air perdu et désespéré.
« Bonne chance !» dit Hermione.
Elle se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue.
« Et à toi aussi, Harry !»
Lorsqu'ils traversèrent la grande salle, Ron sembla retrouver un peu ses esprits. Déconcerté, il se caressa la joue à l'endroit où Hermione l'avait embrassé, comme s'il ne savait pas très bien ce qui s'était passé.
Il paraissait trop égaré pour faire attention à ce qui l'entourait. Quand ils passèrent devant la table des Serpentards, Harry jeta un regard au badge en forme de couronne, et cette fois, il eut le temps de lire ce qui y était écrit. « Wesley est notre roi. » Avec le sentiment désagréable qu'il fallait voir là un très mauvais signe, il entraîna Ron vers le hall d'entrée, puis, descendant les marches de pierre, ils sortirent dans l'air glacial. L'herbe recouverte de givre craquait sous leurs pieds lorsqu'ils traversèrent la pelouse qui descendait vers le stade. Il n'y avait pas de vent, et le ciel uniforme était d'un blanc de perles, ce qui signifiait que la visibilité serait bonne sans l'inconvénient du soleil dans l'œil. Harry souligna ces éléments encourageants, mais il n'était pas sûr que Ron l'écoutait. Alors, entré dans les vestiaires, Angelina, qui s'était déjà changée, s'adressait au reste de l'équipe. Harry et Ron revêtirent leurs robes. Ron essaya pendant un bon moment de la mettre à l'envers jusqu'à ce que Alicia, prise de pitié, vienne à sa rescousse. Puis, s'assirent pour écouter le discours d'avant-match. Au dehors, la rumeur des voix s'intensifiait régulièrement à mesure que la foule déferlait du château pour se rendre dans les tribunes.
« Bon, je viens seulement d'obtenir la composition finale de l'équipe des Serpentards », annonça Angelina en consultant un parchemin. « Les batteurs de l'année dernière, Derrick et Ball, sont partis, mais il semble que Montague les ait remplacés par le même genre de gorille, plutôt que par des joueurs plus habiles à voler. Ce sont deux types du nom de Crabbe et Goyle. Je ne sais pas grand-chose d'eux. »
« Nous, si, » dirent Harry et Ron d'une même voix.
« En tout cas, ils n'ont pas l'air assez intelligents pour savoir dans quel sens volent leurs balais, » reprit Angelina en rangeant son parchemin. « Mais de toute façon, je me suis toujours demandé comment Derrick et Ball arrivaient à trouver le terrain sans pancarte. »«
Crabbe et Goyle sont sortis du même moule, » lui assura Harry. Ils entendaient les pas des spectateurs qui montaient à présent les gradins par centaines pour aller s'asseoir sur les bancs. Certains chantaient. Harry, cependant, ne parvenait pas à distinguer les paroles de leur chanson. Il commençait à se sentir nerveux, mais il savait que ses angoisses n'étaient rien comparées à celles de Ron, qui se tenait le ventre, le regard à nouveau dans le vide, la mâchoire serrée, le teint grisâtre.
« C'est l'heure !» dit Angelina à voix basse en regardant sa montre. « Allons-y et bonne chance !»
L'équipe se leva, le balai sur l'épaule, et sortit des vestiaires en file indienne sous le ciel lumineux.
Des hurlements divers les accueillirent et Harry entendit à nouveau une chanson étouffée par les acclamations et les sifflets. Les joueurs de Serpentard les attendaient. Eux aussi arboraient des badges argentés en forme de couronne. Montague, leur nouveau capitaine, était bâti comme Dudley Dursley avec des avant-bras massifs qui ressemblaient à des jambons poilus. Derrière lui se tenaient Crabbe et Goyle, presque aussi grands. Balançant leurs battes toutes neuves, ils clignaient stupidement des yeux. Malfoy était à côté d'eux, sa tête blonde étincelante à la clarté du soleil. Avec un sourire ironique, il croisa le regard de Harry et tapota le badge en forme de couronne épinglée sur sa poitrine.
« Les capitaines, vous vous serrez la main !»
ordonna l'arbitre Madame Bibine.
Angelina et Montague se tendirent la main. Harry vit nettement que Montague essayait d'écraser les doigts d'Angelina, mais elle resta impassible.
« Enfourchez vos balais !»
Madame Bibine porta le sifflet à ses lèvres et souffla. Les balles furent lâchées et les 14 joueurs s'élevèrent dans les airs. Du coin de l'œil, Harry vit Ron filer vers les buts. Harry prit de l'altitude, évita un cognard et entreprit de décrire un large cercle autour du terrain, scrutant l'espace à la recherche d'un reflet d'or. À l'autre extrémité du stade, Drago Malfoy faisait exactement la même chose.
« Et c'est maintenant Johnson qui prend le soifle. Quelle joueuse extraordinaire, cette fille. Ça fait des années que je le dis, mais elle refuse toujours de sortir avec moi. »«
Jordan !» s'écria le professeur McGonagall.
Ah, « C'était pour rire, professeur, juste pour ajouter un peu de piquant. »« Allez vite, Warrington. Passe devant Montague. Oula ! Elle est frappée dans le dos par un cognard de crabe. Montague reprend le soifle. Il remonte le terrain et excellent cognard expédié par George Wesley en plein sur la tête de Montague qui lâche le soifle. Rattrapé par Cathy Bell. Cathy Bell de Gryffondor fait une passe de revers à Alicia Spinette qui s'élance. »
Le commentaire de Lee Jordan résonnait dans tout le stade et Harry s'efforçait de l'écouter malgré le sifflement du vent dans ses oreilles et le tumulte de la foule qui hurlait, conspuait, chantait.
Elle contourne Warrington, évite un cognard, c'était tout juste Alicia. Et les spectateurs sont ravis. Écoutez-les, qu'est-ce qu'ils chantent ?
Lorsque Lee s'interrompit en tendant l'oreille, la chanson s'éleva forte et claire de la marée vert et argent qui s'étalait dans les tribunes des Serpentards.
Wesley est un grand maladroit, il rate son coup à chaque fois. Voilà pourquoi les Serpentards chantent avec joie. Wesley est notre roi. Wesley est né dans un trou à rats. Il laisse le soif l'entrée tout droit. Voilà pourquoi, grâce à lui, c'est sûr, on gagnera. Wesley est notre roi.
Et Alicia, repasse à Angelina, s'écria Lee. Harry prit un virage serré. Ce qu'il venait d'entendre le faisait bouillir de rage. Il savait que Lee essayait de noyer sous sa voix les paroles de la chanson.
« Vas-y, Angelina ! On dirait qu'elle n'a plus que le gardien devant elle ! Elle tire ! Elle... Ah !»
Bletchley, le gardien de Serpentard, avait bloqué le souffle. Il le renvoya à Warrington, qui fonça en zigzagant entre Alicia et Cathy. Au-dessous, la chanson résonnait avec de plus en plus de force à mesure qu'il se rapprochait de Ron.
« Wesley est notre roi ! Wesley est notre roi ! Il laisse le soif l'entrer tout droit ! Wesley est notre roi !»
Harry ne put s'en empêcher. Abandonnant sa recherche du vif d'or, il dirigea son éclair de feu vers Ron, silhouette solitaire à l'autre bout du terrain, voltigeant devant les trois anneaux, tandis que le massif Warrington fonçait sur lui.
Warrington en possession du soif. Warrington qui s'avance vers les buts, hors de portée des cognards, seul le gardien lui fait face.
Dans les tribunes des Serpentards, la chanson résonna de plus belle.
Wesley est un grand maladroit, il rate son coup à chaque fois.
Voici donc le premier test pour le nouveau gardien de Gryffondor. Wesley, frère des batteurs Fred et George, et un nouveau talent prometteur de cette équipe. Vas-y Ron.
Hélas, ce furent les supporters de Serpentard qui poussèrent les hurlements de joie. Ron avait plongé de toutes ses forces, mais le soif l'était passé entre ses bras écartés et avait traversé l'anneau central.
« Serpentard, Marc !»
annonça la voix de Lee parmi les acclamations et les huées de la foule.
« Le score est donc de 10-0 en faveur de Serpentard. Pas de chance, Ron !»
Les Serpentards chantèrent de plus en plus fort.
« Wesley est né dans un trou à rats. Il laisse le soif entrer tout droit. »
Gryffondor reprend le soif. « Et c'est Cathy Bell qui remonte le terrain !»
s'écria vaillamment Lee, malgré la chanson qui retentissait avec tant de force qu'il avait du mal à se faire entendre.
« Grâce à lui, c'est sûr, on gagnera. Wesley est notre roi !»
« Harry, qu'est-ce que tu fais ?»
cria Angelina en passant devant lui pour se maintenir à la hauteur de Cathy.
« Vas-y !»
Harry se rendit compte qu'il était resté en vol stationnaire pendant plus d'une minute à regarder l'évolution du match sans accorder une pensée au vif d'or. Horrifié, il plongea aussitôt et recommença à faire le tour du terrain, l'œil aux aguets, essayant de ne pas prêter attention au cœur qui emplissait le stade comme un tonnerre.
« Wesley est notre roi ! Wesley est notre roi !»
Nulle part, il n'avait vu trace du vif d'or. Comme lui, Malfoy décrivait des cercles autour du terrain, dans la direction opposée. Et Harry l'entendit chanter à plein poumon.
« Wesley est né dans un trou à rats !»«
Warrington reprend le soif !» s'écria Lee. « Il passe à Pisset !»« Pisset, vite, Spinette !»« Vas-y, Angelina, tu peux l'arrêter !»« Non, finalement, tu peux pas !»« Mais voilà un très beau cognard de Fred Wesley !»« Ah non, non, c'est Georges !»« Oh, peu importe !»« Un des deux, en tout cas !»« Et Warrington lâche le soif repris par Cathy Bell !» Qui le lâche aussitôt et c'est Montag qui le récupère. Le capitaine des Serpentards, en possession du soif, remonte au terrain. Allez, Gryffondor, il faut le bloquer.
Harry fila à l'autre bout du terrain, derrière les buts de Serpentard. Il ne voulait surtout pas voir ce qui se passait du côté de Ron. En passant devant Bletchley, le gardien de Serpentard, il l'entendit chanter avec la foule.
« Wesley est un grand maladroit !»
Et Pucet, évite une nouvelle fois Alicia. Il fonce droit vers les buts. Arrête-le, Ron !»
Harry n'eut pas besoin de regarder pour savoir ce qui s'était produit. Il entendit du côté des Gryffondors une terrible plainte qui se mêla aux cris et aux applaudissements des Serpentards. Baissant les yeux, il vit la tête de bulldog de Pansy Parkinson qui conduisait le cœur des Serpentards, le dos tourné au terrain.
« Voilà pourquoi les Serpentards chantent avec joie. Wesley est notre roi !»
Mais 20-0 n'était pas un score inquiétant. Gryffondor avait largement le temps de rattraper son retard ou de s'emparer du vif d'or. Il suffisait de quelques buts pour qu'il reprenne la tête, comme d'habitude. Harry assura sa prise sur son balai et se mit à zigzaguer parmi les autres joueurs, virant, montant, descendant, à la poursuite d'un reflet brillant qui se révéla être le bracelet-montre de Montag. Entre-temps, Ron avait encaissé deux autres buts. Dans son désir de trouver le vif d'or, Harry ressentait à présent un début de panique. Si seulement il pouvait l'attraper le plus vite possible et mettre fin au match.
« Cathy Bell de Gryffondor est vite pucée. Contourne Montag, beau virage, Cathy. Et passe à Johnson, qui file vers l'ému. Vas-y, Angelina! Gryffondor marque !»
40-10. 40-10 en faveur de Serpentard, et c'est Pucet qui reprend le soifle.
Harry entendit le lion ridicule que Luna portait sur la tête rugir parmi les acclamations de Gryffondor, et il reprit courage. 30 points de différence, ce n'était rien. Il pouvait facilement les rattraper. Harry esquiva un cognard que lui avait envoyé Crabbe et reprit sa recherche frénétique du vif d'or. Il gardait un œil sur Malfoy, au cas où celui-ci l'apercevrait le premier, mais tout comme lui, Malfoy faisait le tour du terrain sans rien trouver.
« Pucet passe à Warrington, qui passe à Montag ? Montag repasse à Pucet, Johnson intercepte, Johnson prend le soifle, passe à Bell, tout ça se présente très bien. Non ! Très mal ! Bell est frappé par un cognard envoyé par un goyle de Serpentard, et c'est Pucet qui reprend possession du soifle. Wesley est né dans un trou à rats. Il laisse le soifle entrer tout droit. Grâce à lui, c'est sûr, on gagnera !»
Mais Harry venait enfin de le voir. Le minuscule vif d'or voltait à quelques dizaines de centimètres du sol du côté des Serpentards. Il plongea aussitôt. En quelques secondes, Malfoy surgit à sa gauche, sa silhouette floue, vert et argent collée à son balai. Le vif d'or contourna le pied d'un début et fila de l'autre côté des tribunes. Son changement de direction arrangeait Malfoy qui se trouvait plus près. Harry vira sur son éclair de feu. Malfoy et lui étaient maintenant côte à côte. Arrivé tout près du sol, Harry tendit sa main droite vers le vif d'or. À sa droite, le bras de Malfoy se tendit également, sa main cherchant à tâtons. Tout fut terminé en 2 secondes. 2 secondes haletantes, éperdues, tourbillonnantes. Les doigts de Harry se refermèrent sur la minuscule balle qui se débattait. Les ongles de Malfoy lui griffèrent la main, mais c'était sans espoir. Harry remonta légèrement, serrant le vif d'or qu'il sentait s'agiter contre sa paume, et les supporters de Gryffondor hurlèrent leur joie. Ils étaient sauvés. Les buts encaissés par Ron n'avaient plus d'importance. Personne ne s'en souviendrait du moment que Gryffondor avait gagné. Bang ! Un cognard frappa Harry au creux des reins et l'éjecta de son balai. Par chance, il se trouvait à moins de 2 mètres du sol après son plongeon vers le vif d'or, mais le choc lui coupa le souffle lorsqu'il atterrit en plein sur le dos à la surface du sol gelé. Il entendit le coup de sifflet aigu de Madame Bibine, puis un grand tumulte de huées, de hurlements indignés, de quolibets, et enfin un bruit sourd tout près de lui.
« Ça va ? Tu n'as rien ?»
demanda la voix fébrile d'Angelina.
« Bien sûr que non, je n'ai rien !»
répondit Harry avec mauvaise humeur en prenant la main d'Angelina pour qu'elle l'aide à se relever. Au-dessus de lui, Madame Bibine fonçait sur l'un des joueurs de Serpentard. Mais il n'arrivait pas à voir de qui il s'agissait.
« C'est ce voyou de Crabbe, » dit Angelina avec colère. « Il t'a envoyé le cognard au moment où il a vu que tu avais le vif d'or. Mais on a gagné, Harry. On a gagné !»
Harry entendit un grognement derrière lui et se retourna, sa main tenant toujours fermement le vif d'or. Drago Malfoy venait d'atterrir, blanc de rage. Il lança malgré tout ses habituels sarcasmes.
« T'as réussi à sauver la peau de Wesley, hein ?» dit-il à Harry. « Je n'ai jamais vu un gardien aussi mauvais. Mais après tout, il est né dans un trou à rats. Ma chanson t'a plu, Potter ?»
Harry ne répondit pas. Il se détourna pour aller à la rencontre des autres joueurs de Gryffondor qui atterrissaient un par un autour de lui, hurlant de joie et donnant des coups de poing dans le vide en signe de victoire. Ils étaient tous là, sauf Ron, qui était descendu de son balai au pied des buts et rentrait seul au vestiaire d'un pas accablé.
« On voulait écrire un autre couplet ?»
lança Malfoy, tandis que Cathy et Angelina serraient Harry dans leurs bras.
« Mais on n'a pas trouvé de rime à grosse et laide. On aurait aimé chanter quelque chose sur sa mère, tu comprends ?»«
Typique des mauvais joueurs !» dit Angelina en regardant Malfoy d'un air dégoûté.
« On a également eu du mal à caser pauvre type dans les paroles à propos de son père. »
Fred et Georges venait de réaliser de quoi parlait Malfoy. Au moment où il s'apprêtait à serrer la main de Harry, ils s'immobilisèrent soudain et regardèrent Malfoy.
Laisse tomber, dit aussitôt Angelina en prenant Fred par le bras. Laisse, Fred, laisse. Laisse-le s'égosiller. Il est simplement hargneux parce qu'il a perdu cette espèce de petit parvenu à la...
Mais toi, t'aimes bien les Wesley, Potter, reprit Malfoy d'un ton railleur. Tu passes même tes vacances avec eux, je crois, hein. Je me demande comment tu fais pour supporter l'odeur, mais enfin, j'imagine que quand on a été élevé, si on peut employer ce mot-là, chez les moldus, même le taudis des Wesley ne sont pas trop mauvais.
Harry ceintura George. Dans le même temps, il fallut les efforts combinés d'Angelina, d'Alicia et de Cathy pour empêcher Fred de bondir sur Malfoy, qui riait ouvertement. Harry chercha Madame Bibine des yeux, mais elle était toujours occupée à sermonner Crabbe pour avoir jeté un cognard après la fin du match.
« Ou peut-être, ajouta Malfoy en s'éloignant avec un regard torve, que tu te souviens de l'odeur que dégageait la maison de ta mère, Potter, et que la porcherie des Wesley te la rappelle ?»
Harry ne se rendit même pas compte qu'il lâchait George. Tout ce qu'il savait, c'était qu'un instant plus tard, tous deux s'étaient précipités sur Malfoy. Il avait complètement oublié que les professeurs les regardaient. Pour lui, la seule chose importante à présent était de faire mal à Malfoy, de lui infliger la plus grande douleur possible. Sans prendre le temps de sortir sa baguette magique, il le frappa violemment au ventre. Son poing, qui tenait encore le vif d'or, s'enfonça dans l'estomac de Malfoy.
« Harry ! Harry ! George ! Non !»
Il entendait des voix de filles crier, Malfoy hurler de douleur, George lançait des jurons, des coups de sifflet retentirent, la foule vociférait mais peu lui importait. Ce fut seulement lorsque quelqu'un s'écria « Impedimenta !» et qu'il se retrouva projeté à terre par la puissance du sortilège, qu'il renonça à marteler de coups de poing chaque partie du corps de Malfoy qu'il pouvait atteindre.
« Qu'est-ce qui vous prend ?»
s'exclama Madame Bibine tandis que Harry se relevait d'un bond. Apparemment, c'était elle qui lui avait jeté un maléfice d'entrave. Elle tenait son sifflet d'une main et une baguette magique de l'autre, son balai abandonné par terre à quelques mètres de là. Malfoy, recroquevillé sur le sol, gémissait et pleurnichait, le nez en sang. George avait une lèvre enflée, Fred était toujours retenu de force par les trois poursuiveuses de Gryffondor, et Crabbe, resté un peu plus loin, caquetait comme un poulet.
« Je n'ai jamais vu un tel comportement !» poursuivit Madame Bibine. « Rentrez immédiatement au château, dans le bureau de votre directrice de maison. Allez, dépêchez-vous !»
Harry et George quittèrent le terrain à grandes enjambées, le souffle court et sans dire un mot. Les hurlements et les quolibets de la foule diminuèrent peu à peu jusqu'à ce qu'ils atteignirent le hall d'entrée où ils n'entendirent plus que le bruit de leurs propres pas. Harry sentit que quelque chose continuait de s'agiter dans sa main droite, dont les jointures étaient contusionnées à force d'avoir frappé la mâchoire de Malfoy. Baissant les yeux, il vit dépasser d'entre ses doigts les ailes argentées du vif d'or qui se débattaient pour essayer de se libérer. À peine avait-il atteint la porte de son bureau qu'ils entendirent le professeur McGonagall s'avancer derrière eux dans le couloir. Elle portait l'écharpe de Gryffondor qu'elle arracha de son cou, avec des mains tremblantes, le visage livide. « Entrez !» dit-elle d'un ton furieux, en montrant la porte. Harry et George obéirent. Elle contourna son bureau et se posta face à eux, frémissante de rage, tandis qu'elle jetait par terre son écharpe de Gryffondor. « Alors !» dit-elle. « Je n'ai jamais vu une exhibition aussi indigne. Deux contre un. J'exige des explications. »
« Malfoy nous a provoqués, » répondit Harry avec raideur.
« Vous a provoqué !»
s'écria le professeur McGonagall. Elle tapa du poing sur son bureau avec une telle violence que sa boîte de biscuits aux motifs écossais glissa et tomba en répandant sur le sol ses tritons au gingembre.
« Il venait de perdre, non ? Bien sûr qu'il avait envie de vous provoquer. » « Mais qu'a-t-il bien pu dire pour justifier que tous les deux, vous... »« Il a insulté mes parents, grogna George, et la mère de Harry. Et au lieu de demander à Madame Bibine d'intervenir, vous avez décidé de vous donner en spectacle en vous livrant à un duel de moldus !» vociféra le professeur McGonagall. « Vous n'avez donc aucune idée de ce que...
» Harry et George firent aussitôt volte-face. Dolores Ombrage se tenait dans l'encadrement de la porte, enveloppée dans une cape de tweed vert qui accentuait considérablement son allure de crapaud. Elle avait cet horrible sourire nauséeux et menaçant que Harry associait désormais à d'imminentes catastrophes.
« Puis-je vous apporter de l'aide, professeur McGonagall ?»
demanda le professeur Ombrage de son ton le plus suavement venimeux. Le sang afflua au visage du professeur McGonagall.
« De l'aide !» répéta-t-elle d'une voix étranglée. « Qu'entendez-vous par de l'aide ?»
Le professeur Ombrage s'avança dans le bureau, sans se départir de son sourire écœurant.
« Je pensais que vous pourriez avoir besoin d'un petit surcroît d'autorité. »
Harry n'aurait pas été étonné de voir des étincelles jaillir des narines du professeur McGonagall.
« Eh bien, vous pensiez mal !»
répliqua-t-elle en tournant le dos à Ombrage.
« Et maintenant, tous les deux, écoutez-moi attentivement. Peu m'importe ce que Malfoy vous a dit pour vous provoquer. Peu m'importe qu'il ait insulté chaque membre de votre famille. Votre comportement a été détestable et je vous donne à chacun une semaine entière de retenue. Ne me regardez pas comme ça, Potter. Vous l'avez mérité. Et si l'un de vous deux s'avise... »
Le professeur McGonagall ferma les yeux comme si elle priait le ciel de lui accorder une infinie patience et se tourna à nouveau vers le professeur Ombrage.
« Oui ?»«
Je pense qu'il mérite plus que de simples retenues, »
dit Ombrage avec un sourire encore plus large. Les yeux du professeur McGonagall se rouvrirent aussitôt.
« Malheureusement, »
dit-elle, en essayant d'afficher à son tour un sourire qui lui donnait l'air d'avoir attrapé le tétanos.
« Ce qui compte, c'est ce que je pense, moi, car ces élèves appartiennent à ma maison, Dolores. »
« Eh bien, en fait, Minerva !»
minauda le professeur Ombrage.
« Vous allez vous apercevoir que ce que je pense compte également. Voyons, où est-il ? Cornelius vient de me l'envoyer. Je veux dire... »
Elle émit un petit rire faux en fouillant dans son sac.
« Le ministre vient de me l'envoyer. Ah ! Voilà !»
Elle sortit un morceau de parchemin qu'elle déroula et s'éclaircit la gorge d'un petit air affecté avant d'en donner lecture.
« Décret d'éducation numéro 25 !»«
Encore un !» s'exclama violemment le professeur McGonagall.
« Eh bien oui !»
répondit Ombrage, toujours souriante.
« En réalité, Minerva, c'est vous qui m'avez fait comprendre que nous avions besoin d'un amendement supplémentaire !» Vous vous rappelez comment vous êtes passé au-dessus de ma tête quand je ne voulais pas permettre que l'équipe de Gryffondor se reconstitue, hein? Comment vous êtes allé demander l'arbitrage de Dumbledore qui a insisté pour qu'on autorise cette équipe à jouer? Eh bien maintenant, ce ne serait plus possible. J'ai aussitôt contacté le ministre et il a été entièrement d'accord pour estimer que la grande inquisitrice devait avoir le pouvoir de retirer aux élèves leurs privilèges. Sinon, elle, c'est-à-dire moi, aurait moins d'autorité que les simples professeurs. Et aujourd'hui, vous voyez bien, Minerva, comme j'avais raison d'essayer d'empêcher la reconstitution de l'équipe de Gryffondor. Ils ont un tempérament épouvantable. Quoi qu'il en soit... J'étais en train de vous lire le nouvel amendement. Le grand inquisiteur aura dorénavant l'autorité suprême pour infliger toute sanction, punition et retrait de privilèges aux élèves de Poudlard, ainsi que le pouvoir de modifier les sanctions, punitions et retrait de privilèges qui auraient été décidés par des membres du corps enseignant. Signé Cornelius Fudge, ministre de la magie, ordre de Merlin, première classe, etc., etc.
Toujours souriante, elle roula le parchemin et le remit dans son sac.
Je pense donc que je vais devoir interdire définitivement à ces deux-là de rejouer au Quidditch,
dit-elle en regardant alternativement Harry et George. Harry sentit le vif d'or se débattre avec fureur au creux de sa main.
Nous interdire, dit-il d'une voix qui semblait étrangement lointaine, définitivement de rejouer au Quidditch.
Oui, monsieur Potter. Je crois qu'une interdiction à vie devrait faire l'affaire,
dit Ombrage. Son sourire s'élargit encore davantage quand elle vit les efforts que devait déployer Harry pour saisir toute l'ampleur de ce qu'elle venait de lui annoncer.
Cette interdiction s'appliquera à vous et à monsieur Wesley, ici présent. Pour plus de sûreté, le frère jumeau de ce jeune homme devrait également être exclu. Si ses coéquipiers ne l'avaient pas retenu, je suis certaine qu'il aurait lui aussi attaqué le jeune Malfoy. Bien entendu, je veux que leur balai soit confisqué. Je les conserverai dans mon bureau pour être sûre que l'interdiction ne sera pas contournée. Mais je resterai mesurée, professeur.
Poursuivit-elle en se tournant vers le professeur McGonagall qui la regardait fixement avec l'immobilité d'une statue de glace.
Le reste de l'équipe pourra continuer à jouer. Je n'ai vu aucun signe de violence chez les autres. Eh bien, au revoir. Je vous souhaite un bon après-midi.
Avec un air d'extrême satisfaction, Ombrage quitta alors le bureau, en laissant derrière elle un silence horrifié.
Interdit à vie ?
Dit Angelina d'une voix caverneuse. Ils s'étaient retrouvés le soir dans la salle commune.
Interdit à vie ? Plus d'attrapeurs, plus de batteurs, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ?
On n'aurait pas du tout pensé qu'il venait de gagner le match. Partout où Harry tournait les yeux, il ne voyait que des mines furieuses et inconsolables. Les joueurs eux-mêmes étaient avachis autour de la cheminée, à l'exception de Ron, que l'on n'avait pas revu depuis la fin du match.
C'est tellement injuste, dit Alicia d'un air hébété. Et Crabbe, qui t'a envoyé un cognard après le coup de sifflet final, on ne lui a pas interdit de jouer à lui.
Non, dit Ginny d'un air accablé. Et Hermione et elle étaient assises de chaque côté de Harry.
Il a simplement eu des lignes à copier. Ça faisait beaucoup rire Montague pendant le dîner.
Et interdire Fred, alors qu'il n'a rien fait du tout,
s'exclama Alicia avec fureur en tapant du poing sur son genou.
C'est pas ma faute si j'ai rien fait, assura Fred avec une expression redoutable sur le visage. Si vous ne m'aviez pas retenu toutes les trois, j'aurais réduit ce petit fumier en charpie.
Harry regardait d'un air affligé la fenêtre obscure. La neige tombait. Le vif d'or qu'il avait gardé voltait tout autour de la salle commune. Les élèves le suivaient des yeux, comme hypnotisés, et pattes en rond sautaient de fauteuil en fauteuil pour essayer de l'attraper.
« Je vais me coucher, » dit Angelina en se levant lentement. « On va peut-être s'apercevoir que tout ça n'était qu'un cauchemar. Peut-être qu'en me réveillant demain matin, je réaliserai que le match n'a pas encore eu lieu. »
Elle fut bientôt suivie par Alicia et Cathy. Un peu plus tard, Fred et George regagnèrent leur lit d'un pas traînant, lançant des regards noirs à tous ceux qu'ils croisaient. Peu après, Ginny rejoignit également son dortoir. Il ne restait plus que Harry et Hermione devant la cheminée.
« Tu as vu Ron ?» demanda Hermione à voix basse.
Harry fit non de la tête.
« Je crois qu'il nous évite. Où penses-tu qu'il ?»
À cet instant précis, il y eut un grincement derrière eux. Le portrait de la grosse dame avait pivoté sur ses gonds et Ron entra par le trou aménagé dans le mur. Il était très pâle, et de la neige parsemait ses cheveux. Lorsqu'il vit Harry et Hermione, il se figea sur place.
« Où étais-tu ? »
demanda Hermione d'une voix anxieuse. Elle s'était levée d'un bond.
« Je suis allé faire un tour, »
marmonna Ron. Il portait toujours sa tenue de Quidditch.
« Tu as l'air frigorifié, » remarqua Hermione. « Viens t'asseoir !»
Ron s'approcha de la cheminée et se laissa tomber dans le fauteuil le plus éloigné de celui de Harry, en évitant soigneusement de croiser son regard. Le vif d'or dérobé volta au-dessus de leur tête.
« Je suis désolé, »
grommela Ron en regardant ses pieds.
« Pourquoi ?»
demanda Harry.
« D'avoir cru que je t'aurais joué au Quidditch, » répondit Ron. « Je vais donner ma démission demain matin à la première heure. »«
Si tu démissionnes, » dit Harry avec mauvaise humeur, « il n'y aura plus que trois joueurs dans l'équipe. » Devant l'air surpris de Ron, il ajouta «
Je suis interdit de Quidditch à vie, Fred et George aussi.
Quoi ?
Blapit Ron.
Et Hermione lui raconta toute l'histoire. Harry n'aurait pas supporté de le faire lui-même.
Lorsqu'elle eut terminé,
Ron parut plus angoissé que jamais.
Tout ça est de ma faute.
Ce n'est pas toi qui m'as poussé à taper sur Malfoy, répliqua Harry avec colère.
Si je n'étais pas si mauvais au Quidditch,
ça n'a rien à voir.
C'est cette chanson qui m'a énervé.
« Ça aurait énervé n'importe qui !» Et Hermione se leva et s'approcha de la fenêtre pour ne plus entendre leur dispute. Elle regardait les flocons de neige virevolter devant les carreaux.
« Bon, laisse tomber, tu veux ?»
s'exclama Harry. « C'est déjà suffisamment pénible comme ça. C'est pas la peine en plus de t'entendre dire que tout est de ta faute. » Ron ne répondit rien. Il resta assis, l'air accablé, à contempler l'ourlet humide de sa robe de sorcier. Au bout d'un moment, il murmura tristement.
« Je ne me suis jamais senti aussi mal de ma vie. »«
Bienvenue au club, » répondit Harry avec amertume.
« Eh bien moi, »
dit Hermione d'une voix un peu tremblante,
« je crois que j'ai quelque chose à vous annoncer qui devrait vous remonter un peu le moral. »
« Ah vraiment ?» répliqua Harry d'un air sceptique.
« Oui, »
assura Hermione. Elle se détourna de la fenêtre d'un noir d'encre constellé de flocons de neige. Un large sourire s'étalait sur son visage.
« Hagrid est revenu, » dit-elle.